Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Jusqu'au 17 juillet, France Culture est en public et en direct de la cour du musée Calvé à Avignon pour des lectures et des spectacles. Ce soir, rendez-vous avec Pascal Quignard et Benjamin Dupé par soir de très grand vent. I will leave this town by the weekend if you buy me a ticket. I save my money for the dark days. Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Ce titre énigmatique est celui d'un spectacle imaginé par le compositeur et metteur en scène Benjamin Dupé à partir du livre de Pascal Quignard, La haine de la musique. Ce spectacle est né ici même, à Avignon, en 2014, une commande de la SACD pour le programme Sujet à vif, donné au Jardin de la Vierge. Ce spectacle était si sonore que l'idée a cheminé d'en créer en public une version radiophonique. La présence de Pascal Quignard avec Marie Vial à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons pour cette 70e édition du festival donnait tout son sens cette année à la présentation dans la cour du musée Calvet du spectacle de Benjamin Dupé. Nous avons alors imaginé un cycle de lecture consacré à Pascal Quignard avec le nom sur le bout de la langue et Princesse Vieille Reine, interprétée par Marie Vial. Et ce soir, en direct, dans une réalisation de Sophie Haute-Picon, le spectacle, il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières. Sur le plateau, le comédien Pierre Beau, l'altiste Gert Knox et à sa console, Benjamin Dupé. Compositeur, guitariste et metteur en scène, Benjamin Dupé est habité depuis longtemps par le livre de Pascal Quignard, La haine de la musique. Un texte qui sonne comme un défi ou une provocation pour un musicien particulièrement préoccupé par les conditions de l'écoute de la musique. Qu'est-ce que écouter ? Comment toucher l'auditeur ? Le livre de Pascal Quignard était vraiment destiné à Benjamin Dupé. Ce livre, composé de 10 chapitres, écrits comme des traités ou des essais, interroge les pouvoirs de la musique. On ne se protège pas de la musique, nulle paupière, nulle cloison. La musique est intrusive et elle est capable de tout envahir. Elle existe aussi pour le pire et le meilleur. Comment se fait-il que certains qui aiment la musique la plus raffinée soient aussi capables de férocité ? La musique, rappelle Pascal Quignard, était aussi utilisée par les nazis dans les camps de concentration. Car il se trouve que l'art n'est pas contraire à la barbarie, nous dit l'écrivain. Tout de suite, en direct et en public de la cour du musée Calvet à Avignon, sur France Culture, avec la SACD, il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières.
Quand la musique était rare, sa convocation était bouleversante, comme sa séduction vertigineuse. Quand la convocation est incessante, la musique devient repoussante. Et c'est le silence qui vient héler. Le silence est devenu le vertige moderne. De la même façon qu'il constitue un luxe exceptionnel dans les mégapoles. La musique, par la multiplication, non de son usage au contraire s'est raréfié, mais de sa reproduction, comme de son audience, a désormais franchi la frontière qui l'opposait au bruit. En ville, la diffusion des mélodies a engendré des réactions de phobie, dégénérant de façon héroïque sous forme de meurtre à la carabine. À la campagne, la rareté des agressions, avions, tracteurs, scie électrique, détonation des fusils, motocyclettes tout-terrain, perceuses et visseuses toutes cloisons, tondeuses à gazon, bennes à ordures, postes de télévision, tourne-disques, même situés à plus d'un kilomètre, portés par bouffées, par le vent, permet parfois de recomposer peu à peu la musique comme un nom bruit. C'est à la campagne qu'il m'arrive de rejouer avec plaisir quelques instants de cette chose ancienne, exceptionnelle, convocative, dépossédante, fascinante, qui avait nom la musique. Les fredons surgissants. Les mots forment chaîne dans le souffle. Les images forment rêve dans la nuit. Les sons aussi forment chaîne le long des jours. Nous faisons aussi l'objet d'une narration sonore qui n'a pas reçu dans notre langue une dénomination telle que le rêve. Je les nommerai ici les fredons surgissants. Les fredons surgissants inopinément quand on marche. Surgissant tout à coup, selon le rythme de la marche. Vieux chant, cantique, ritournelle enfantine et conjuratrice, berceuse ou comptine, polka ou valse, chansons de société et refrains populaires, détritus de Gabriel Fauré ou de Lully. Les mâles d'osier dans la poussière, dans le grenier d'Anceny, dans l'odeur âcre de la poussière sèche et fine, dans les raies de lumière que les lucarnes étroites concentraient, presque de la poudre d'un plâtre qui se déposait au fur et à mesure devant les partitions, tous facteurs d'orgue et organistes en Bavière. Des fils de quignard à la queue leu-leu, des partitions du XVIIIe siècle, du XXe siècle. L'or tombait de l'unique lucarne, permettait de les lire, poussait à en soulever la poussière, incitait à les fredonner. Thank you. Les fredons surgissant de façon inopinée renseignent aussitôt sur l'état dans lequel on est. Sur l'humeur dont sera tissé le jour. C'est ce qu'en classe de solfège on enseignait aux petits-enfants sous le nom de l'armure. Le fredon dit en quel ton l'espace du corps est. Il distribue le nombre des dièses et des bémols dont il faudra se souvenir en jouant la pièce du jour. Jusqu'à la progression de la nuit qui enveloppera le corps et le visage, mais n'assourdira aucunement le monde. Certains sons, certains fredons, disent en nous quel ancien temps il fait actuellement en nous. Au temps de l'empereur Tiao vivait Yiyu-Yeou. L'empereur envoya à Yiyu-Yeou une troupe de ses meilleurs officiers pour lui demander d'accepter l'empire. Yiyu-Yeou fut pris d'une nausée imparable devant l'émissaire à la seule idée que l'empereur céleste eût songé à lui offrir de diriger le monde. La main sur la bouche, il ne put rien répondre et il se retira. Alors, il descendit à la rivière pour se laver les oreilles. Chao Fu poussa plus loin que Yiyu-Yeou le mépris des choses politiques. Alors qu'il descendait le flanc de la vallée pour aller faire boire son bœuf dans la rivière, Chao Fu vit Yiyu-Yeou accroupi sur la rive, penchant la tête à droite, inclinant la tête à gauche, en train de se laver les oreilles. Chao Fu s'approcha de Yiyu-Yeou et après l'avoir salué à plusieurs reprises, demanda la raison de ses gestes rythmés. Yiyu-Yeou rétorqua : l'empereur Tiao m'a proposé de prendre les rênes de l'empire. Voilà pourquoi je suis en train de me laver soigneusement les oreilles. Le haut du corps de Chao Fu frémit. Il considéra en pleurant la rivière. Zhaofu tira son bœuf par le licol et ne lui permit plus de boire dans la rivière où Yiyu Yehu avait lavé des oreilles qui avaient entendu une semblable proposition. Nous portons notre attention sur des sons identiques et qui se répètent à intervalles égaux. Nous ne les entendons pas à l'unité. Nous les organisons spontanément en groupes de 4 sons, de 2, quelquefois de 3, rarement de 5, jamais au-delà. Et ce ne sont pas les sons qui nous semblent se répéter alors, mais ce sont les groupes qui nous paraissent se succéder à eux-mêmes. C'est le temps lui-même qui s'agrège et se ségrège de la sorte. Henri Bergson prit l'exemple de l'horloge mécanique. Mais nous groupons toujours par deux les marques sonores des secondes, comme si les horloges électriques avaient conservé en elles le fantôme de la danse d'un balancier. Les hommes qui habitent la France appellent tic-tac ce groupe sonore. Et c'est avec sincérité et presque de l'évidence qu'il nous semble que le temps entre tic et tac est plus court qu'entre le tac, qui semble terminer le double battement, et le tic, qui paraît commencer le groupe suivant. Le groupement rythmique, ni la ségrégation temporelle ne sont des données physiques. Alors, l'homme, pour peu qu'on lui demande, a un mal fou à parvenir à l'arythmie. Il lui est impossible de réussir une suite de frappés la plus irrégulière possible. On va essayer. Avec moi. Attention. Ou du moins, son audition lui est impossible. bleu publié en 1903, McDougall proposa d'appeler intervalle mort. Le silence très particulier qui sépare à l'oreille humaine deux groupes rythmiques successifs. Le silence qui sépare ces groupes est une durée paradoxale qui naît à partir du fini et s'interrompt à partir du commençant. Ce silence que l'humanité entend n'existe pas. McDougall l'appela mort. 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 La sonate de la maison ancienne, ignorant les générations, est d'une lenteur qui passe la mémoire de ses habitants successifs. Le plancher gémit, les persiennes battent, chaque escalier a sa clé. La porte de l'armoire craque et le ressort des vieux divans de cuir répond. Tous les bois de la maison, quand l'été les a asséchés, assemblent un instrument de musique à la fois régulier et désordonné qui interprète une composition de perdition. Travaillée par une destruction d'autant plus menaçante qu'elle est effective, même si sa lenteur ne la rend jamais entièrement perceptible aux oreilles de ses habitants humains. La maison ancienne chante un mélos. Qui, sans être divin, n'est pas à l'échelle de ceux qui ont été élevés ou qui y sont morts et que l'on a connus et qui n'ont fait qu'y ajouter leur chant à l'aube ou bien le soir. C'est une lente mélopée qui parle à la famille, comprise comme une masse de plusieurs générations. Aucun de ces éléments forfaitaires, ni de ces molécules privées et provisoires, ne saisit vraiment et qui gémit sans finir sur sa propre ruine qu'elle annonce. « son est l'invisible, sous la forme du perceur d'enveloppe. Qu'il s'agisse de corps, de chambres, d'appartements, de châteaux, de cités remparées, immatériel, il franchit toutes les barrières. Le son ignore la peau, ne sait pas ce qu'est une limite. Il n'est ni interne ni externe. Illimitante, il est inlocalisable. Il ne peut être touché. Il est l'insaisissable. L'audition n'est pas comme la vision. Ce qui est vu peut être aboli par les paupières. Peut être arrêté par la cloison, la tenture. Peut être rendu inaccessible par la muraille. Ce qui est entendu ne connaît ni paupières, ni cloison, ni tenture, ni muraille, indélimitable. Nul ne peut s'en protéger. Il n'y a pas de point de vue sonore. Il n'y a pas de terrasse, de fenêtre, de donjon, de citadelle, de point de vue panoramique pour le son. Il n'y a pas de sujet ni d'objet de l'audition. Le son s'engouffre. Il est le violeur. Il se trouve que l'infini de la passivité se fonde dans l'audition humaine. C'est ce que je ramasse sous la forme « Les oreilles n'ont pas de paupières ». Le son touche illico le corps. Comme si le corps, devant le son, se présentait plus que nu, dépourvu de peau. Oreille, où est votre prépuce? Oreille, où sont vos paupières? Oreille, où sont la porte, les persiennes, la membrane ou le toit? Jusqu'à l'ultime instant de la mort, les hommes et les femmes ouïssent sans un instant de cesse. Il n'y a pas de sommeil pour l'audition. C'est pourquoi les instruments qui réveillent le dormeur font appel à l'oreille. S'absenter de l'environ n'est pas possible pour Louis. Il n'y a pas de paysage sonore. Parce que le paysage suppose l'écart devant le visible. Il n'y a pas d'écart devant le sonore. Le sonore est le pays qui ne se contemple pas. Le pays sans paysage. Thank you.
la nature des sons est d'être invisible, sans contour précis. En puissance de s'adresser à ce qui est invisible, ou de se faire messager auprès de l'indélimitable. L'audition est la seule expérience sensible de l'ubiquité. C'est pourquoi les dieux finissent comme des verbes. Ce sont des voix qui viennent de nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Entendre, c'est être touché à distance. Ouïr, c'est obéir. Écouter se dit en latin obaudire. Obaudire a dérivé en français sous la forme obéir. L'audition, la audiencia, est une obaudiencia, est une obéissance. La musique viole le corps humain. Elle met debout. Les rythmes musicaux fascinent les rythmes corporels. À la rencontre de la musique, l'oreille ne peut se fermer. La musique étant un pouvoir, s'associe de ce fait à tout pouvoir. Elle est d'essence inégalitaire. Oui et obéissance sont liés. Un chef des exécutants. Des obéissants. Telle est la structure que son exécution met aussitôt en place. Partout où il y a un chef et des exécutants, il y a de la musique. Platon ne pensa jamais à distinguer la guerre et la musique, la discipline et la musique, la hiérarchie sociale et la musique. Même les étoiles, ce sont des sirènes, selon Platon, astres sonores, producteurs d'ordre et d'univers. Cadence et mesure. La marche est cadencée. Les coups de matraque sont cadencés. Les pas sont cadencés. La première fonction, ou du moins la plus quotidienne des fonctions assignées à la musique des Lagerkappel, consista à rythmer le départ et le retour des commandos. Comment entendre la musique, n'importe quelle musique, sans lui obéir? Comment entendre la musique à partir du dehors de la musique? Comment entendre la musique, les oreilles fermées? 1. La musique convoque au lieu où elle a lieu. 2. Elle assujettit les rythmes biologiques jusqu'à la danse. 3. Fait tomber par terre dans le cercle de la transe le mugissement qui parle dans le chaman. Si la voix chevrotte, le corps cabriole. Sauter n'est pas bondir, ramper n'est pas glisser. Saut de carte, tarentelle, balle ou mascarade sont originairement la même chose. D'où viennent frétiller, gigoter, tituber, tempêter, gueuler, brailler, aboyer, vagir, piauler, déblatérer, huer. Intimider la tornade. Fouetter l'ouragan. Calmer le feu. Assommer la rafale. Semer la panique dans les pluies. Attirer le troupeau dans son piétinement. Ensorceler la venue du fauve dans le corps du sorcier. Terrifier la lune, les âmes et le temps jusqu'à l'obéissance. Comment entendre la musique, n'importe quelle musique, sans lui obéir? Comment entendre la musique à partir du dehors de la musique? Comment entendre la musique, les oreilles fermées? La musique, depuis la Seconde Guerre mondiale, est devenue un son non désiré. Une noise, pour reprendre un ancien mot de notre langue. Une noise. 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 A noise.
Le bruit de ses propres pas, telle est la première strate du silence. Horace dit que le silence, même à midi, même au moment de la plus grande torpeur, l'été bourdonne sur les berges immobiles des fleuves. C'est le mot de Clara Askill après qu'elle eut interprété la sonate en mi mineur de Mozart au théâtre des Champs-Élysées. Je n'ai jamais rencontré un tel silence. Je ne sais pas si je le retrouverai jamais. 6 jours plus tard, Clara Askill tomba la tête la première dans l'escalier en gare de midi à Bruxelles, la rampe échappant à ses doigts. Le bruit de ses propres pas, telle est la première strate du silence. Au XVIIIe siècle de notre ère, Yann Delors, Jean Delours, attache solidement sous ses bras la corde, il descend au fond du puits, le trou s'enfonce verticalement dans la terre sans qu'il en perçoive le fond. Les parois sont gluantes, des chauves-souris s'échappent silencieusement dans l'obscurité. La descente dure 3 jours pleins. Au bout du 3e jour, sa canne de 40 quintaux heurte le fond de la terre. Yann Delors se libère de la corde. Il fait quelques pas dans l'immense caverne où il vient de parvenir. Un grand tas d'os jonche le sol. Il marche au milieu des crânes. Il entre dans un château au milieu de la grotte. Il marche, mais ses pas ne résonnent plus. Yann lance sa canne de 40 quintaux sur le sol de marbre. Cela fait le bruit d'une plume d'oiseau qui tombe sur la neige. Yann Delors se comprend aussitôt que ce château est la demeure où les sons ne peuvent pas naître. Il lève la tête vers un chat gigantesque, fait de calcite, de verre lumineux, de cristal. Le grand chat porte sur le front une escarboucle qui flamboie dans l'obscurité. Il y a partout des arbres chargés de pommes d'or qui entoure une fontaine muette. L'eau jaillit, puis retombe sans qu'on n'entende rien. Assise au bord de la fontaine, une jeune fille, belle comme l'aurore, peigne sa chevelure avec un croissant de lune. Yann Delors s'approche d'elle, mais elle ne le voit pas. Les yeux de la jeune fille merveilleuse restent irrésistiblement fixés sur les feux de l'escarboucle qui maintient le lieu sous son charme. Yann veut lui parler. Il pose sa question, mais sa question ne résonne pas. La femme est ensorcelée, pense Yann Delors. Et moi ? Je vais devenir un homme fou dans ce silence de mort. Alors Yann soulève sa canne de 40 quintaux, la brandit et en donne un grand coup sur la tête du grand chat de cristal. Tous les stalactites se brisent en émettant le plus beau chant du monde. Les sons emprisonnés deviennent tout à coup libres. La fontaine murmure. Les dalles résonnent. Les feuilles bruissent sur les branches des arbres. Les voix parlent. Thank you.
de Pascal Quignard. Enregistré en direct et en public au musée Calvet en Avignon le 14 juillet 2016 en partenariat avec la SACD. Interprétation Pierre Beau, alto Garth Knox, conception musique et dramaturgie Benjamin Dupé, collaboration informatique musicale Manuel Poletti, équipe technique Claire Levasseur, Émilie Couette et Tanguy Le Cornu. Coordination Sandrine Bréchaud et Chloé Mauduit. Assistante à la réalisation Clémence Grosse. Réalisation Sophie Haute-Picon. Remerciements aux régisseurs du musée Calvet, Irène Sorel, Anne Bouchicot et Thierry Allaire. La haine de la musique de Pascal Quignard est publiée aux éditions Kalman-Lévy.
Bonsoir, vous écoutez France Culture, donc et vous venez d'entendre ce magnifique spectacle de Benjamin Dupé. Et Benjamin Dupé est avec moi jusqu'à 21h. Je vais lui poser pas mal de questions. En fait, on a vraiment envie de savoir beaucoup de choses. Tout d'abord, vous avez joué ce spectacle un peu dans plusieurs théâtres. Vous l'aviez créé ici à Avignon, mais avec du Mistral. Ça vous était arrivé ?
Non, j'avoue que c'est une grande première ce soir. Ceci dit, voilà, on a eu pire à la répétition. Et puis c'est ce qu'on se disait, le vent dans les branches des arbres, c'est assez quignardien comme expérience. Donc voilà, j'espère qu'on a laissé un peu d'espace à ça aussi.
Alors sur le plateau, il y a Pierre Beau et Garth Knox. Donc on pense qu'il y a en fait deux artistes sur le plateau. En fait, vous êtes trois parce que vous étiez installés juste devant Tanguy à la console de la sonorisation. Et on vous voyait, vous êtes le troisième interprète finalement de ce spectacle. Et on vous voit même physiquement comme ça, donc vous lancez des sons, vous êtes totalement présent. Et c'est dommage que les spectateurs ne puissent pas vous voir quasiment en même temps que le comédien et l'altiste.
Oui, c'est vrai que je suis dans une grande interaction avec ce qui se passe au plateau, à la différence près que je ne suis pas initiateur de son et de musique. C'est-à-dire que mon travail consiste en grande partie, en tout cas, à reprendre le son de la voix, à reprendre le son de l'alto, et par ce qu'on appelle des effets en temps réel, c'est-à-dire des petites transformations du son, mais qui sont vraiment générées par l'instrument et par la voix, à orchestrer cette musique, à la faire vivre dans l'espace, à lui donner un écrin. Mais voilà, je considère que les vrais interprètes, c'est-à-dire ceux qui portent quelque chose et ceux qui se lancent dans l'espace vide et dans le silence, ce sont bien Pierre et Garth.
Benjamin Dupé, est-ce que vous êtes un lecteur de Pascal Quignard en général, ou est-ce que vous étiez le lecteur de ce livre ? Comment s'est passée la rencontre avec cet écrivain ?
Je crois que c'est le deuxième livre de Pascal Quignard que j'ai lu. J'avais lu le Sexe et l'effroi, qui, si je ne m'abuse, était paru un peu avant. J'avais lu le Sexe et l'effroi parce que j'étais intéressé par la mythologie à l'époque, et par toute cette étude des Grecs et des Latins qu'il y a dans certains livres de Quignard. Mais en fait, j'étais quand même assez jeune. Le livre est sorti en 95, donc j'avais une petite vingtaine d'années, et je l'ai vu sur une table de librairie. Évidemment, le titre, La haine de la musique, je ne me suis même pas posé de questions. J'ai acheté le livre directement. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez fort, d'autant plus fort que c'est quand même un livre plein de mystères. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas certain d'avoir saisi l'entièreté de ce que signifie, de ce que veut dire Quignard dans chacune des pages. C'est un livre très dense, mais il y avait à la fois des choses qui faisaient écho à des préoccupations, et puis il y avait des choses, voilà, teintées de mystère, un peu cachées derrière une langue très ciselée, derrière aussi des références très très érudites. Et finalement, c'était un peu un défi. Et donc ce livre m'a accompagné au fil des années. Je l'ai pris, je l'ai laissé de côté, je le reprenais plusieurs années plus tard, je découvrais de nouvelles choses. Et petit à petit, comme ça, cette idée de le partager avec un public sous une forme vivante m'est venue. Et cette idée de mettre la parole de Quignard en écho direct avec la musique, qui est le sujet dont il traite, m'intéressait beaucoup. Parce qu'il faut dire qu'au-delà de ce projet sur Pascal Quignard, une partie importante de mon travail est centrée vraiment sur le phénomène de l'écoute. Et moi, je viens de la musique de création, la musique contemporaine, et je pense que c'est quelque chose de très important quand on écrit de la musique, de se questionner à cet endroit-là. Et finalement, aujourd'hui, avec toute l'histoire de la musique qui est derrière nous, ce qui se passe dans la perception du musical est peut-être encore un champ à explorer, y compris pour les compositeurs, et inventer des formes, faire que les choses se fassent écho les unes aux autres, aussi bien dans le temps d'une seule pièce que d'une pièce à l'autre, ou que de pièces de l'histoire de la musique à des pièces d'aujourd'hui. Et c'est pour ça voilà, que cette dialogue, cette mise en abîme, pour être plus exact, entre la musique et la parole sur la musique me semblait intéressante.
Je rappelle que c'était une commande de la SACD, donc en fait la SACD vous appelle, vous passe une commande, vous dites je me précipite sur Quignard finalement.
Alors, pour être tout à fait honnête, je travaillais déjà sur ce projet-là. C'est un projet qui a pris plusieurs formes, en fait. Et moi, je travaillais sur ce qu'on appelle une grande forme. C'est une forme pour un grand plateau avec donc toujours ce texte et un quatuor à cordes et une scénographie. Et j'étais en train voilà, on lançait la production, j'étais en train de commencer à travailler. Et effectivement, le Festival d'Avignon et la SACD me proposent un sujet à vif. Et j'ai tout de suite dit, je suis très occupé par un projet sur Quignard, mais peut-être on peut imaginer quelque chose justement pour les sujets à vif autour de ce texte. Et c'est là que j'ai fait appel à Garth Snox, puisque les sujets à vif sont des petites formes. Donc le duo Garth Snox-Pierre Beau me semblait idéal. Et voilà, le projet est né comme ça.
Et donc il a voyagé jusqu'à la radio, il est revenu finalement à son lieu de naissance, ici Avignon, puisque à quelques centaines de mètres de là où il avait été créé. Je voudrais encore vous poser une petite question, il nous reste 2 minutes, 2 minutes 30. Christian Loupa, le metteur en scène polonais, quand il parle de sa manière de travailler avec les auteurs qu'il met en scène, dont souvent Thomas Bernhard, dit que sa relation, ce qu'il aime, c'est polémiquer finalement avec l'auteur. Et en fait, quand j'entends ce spectacle, quand je le vois et je l'entends, j'ai le sentiment comme ça de cette polémique entre le compositeur et l'écrivain.
Ah oui, en tout cas, alors il y a... Non, mais je suis content que vous me parliez de cet aspect, parce que c'est vrai que des fois, j'ai des spectateurs qui viennent me dire « Je ne suis pas du tout d'accord avec Pascal Quignard dans ce passage-là, c'est une aberration. » Et comme si moi, j'étais là pour défendre le texte de Quignard. Or, pas du tout. Il y a des choses avec lesquelles je suis plus ou moins d'accord. Évidemment, quand même, globalement, il y a des choses qui m'intéressent et qui me touchent. Mais je veux dire, c'est la pensée de Quignard et je la traite comme telle. Je pense d'ailleurs que je suis pas dans un respect ni de la pensée de Quignard, et je pense ni de son univers musical. C'est un grand mélomane. Et c'est vrai que de prendre ce texte en le respectant vraiment et en faisant en sorte qu'on puisse l'entendre et donc le comprendre ne m'empêche pas de effectivement pouvoir répondre à une certaine dénonciation par une certaine jubilation ou de transformer la poésie en suspension. Enfin voilà, il y a une oui, c'est quelque chose de, c'est une matière, c'est quelque chose de très très vivant. Et c'est surtout un endroit de jeu. Alors ça, je m'étais dit cette chose-là, que ça pouvait être quelque chose de ludique, cette interaction entre un comédien et un musicien, et que ce projet-là pouvait être cette occasion aussi.
Merci Benjamin Dupé. On voudrait vous entendre longtemps, en fait, nous parler de votre travail, mais il est bientôt l'heure de rendre l'antenne. Nous étions, il est même tout à fait l'heure de rendre l'antenne sur France Culture. Nous étions en direct en public depuis la cour du Musée Calvet au Festival d'Avignon. Merci à tous les auditeurs, aux spectateurs présent ici au Musée Calvet. Demain, vous pourrez assister à l'enregistrement en direct à 12h45 de la Grande Table. Et demain soir, un texte magnifique de Stefan Zweig qui vous plairait certainement. Vous pourriez aussi polémiquer peut-être avec lui. Stefan Zweig, Le Monde d'hier de Stefan Zweig par Jérôme Kircher, demain soir ici en direct et en public à 20h sur France Culture. Et je vous souhaite une belle soirée à tous à Avignon pour ceux qui sont ici et sur France Culture pour tous ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. Bonsoir et merci. Save my mind from the dark days, honey.